DW, le club de l'auditeur.
Si on veut d'emploi, on ne trouve pas. Moi-même, je suis une personne handicapée physique, un pied gauche. Mais bon, ici, j'allais à l'école, bon, j'ai eu mon BPC, bon, je n'ai pas pu évoluer. Je n'ai pas trouvé la personne qui va m'aider. Et bon, j'ai dû démissionner pour faire quelque chose un peu, me débrouiller. On en a l'espoir que peut-être avec d'autres associations, on peut travailler pour pouvoir subvenir à nos besoins. Enfin, des fois même, on est marginalisé. Bon, qu'est-ce que lui-là peut faire encore? Et en passant, même, on se moque de vous. Et on rentre de maison en maison pour les sensibiliser, mais ils n'arrivent même pas à vous comprendre.
Nous dit Mustapha du Togo. C'est ce 3 décembre, la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Un événement qui a pour vocation de promouvoir l'inclusion des personnes handicapées. C'est le sujet de ce club, l'émission à votre écoute et votre service, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel. Mireille Drono Micro, bienvenue à toutes et à tous. Et une pensée particulière à tous ceux qui ont fêté cette semaine leur anniversaire, comme Lamarane, auditeur de longue date qui nous suit aujourd'hui de New York et souffle une bougie de plus ce dimanche. Alors, nos meilleurs vœux. Unis dans l'action pour sauver et réaliser les ODD, les objectifs de développement durable, pour, avec et par les personnes handicapées, c'est le slogan de cette journée du 3 décembre 2023, consacrée aux personnes vivant avec un handicap, qui vise à un avenir où personne ne serait laissé de côté. Pourtant, alors que l'échéance de 2030 se profile à l'horizon, seuls 15% des cibles des ODD sont en passe d'être atteints, en raison de crises multiples. Les 1,3 milliard de personnes portent de handicap dans le monde sont entre autres les plus affectées par ces progrès trop limités, ce qui signifie une exclusion constante de l'accès aux biens et services publics et des niveaux élevés de discrimination. Michèle Sojip du Cameroun a fait des études de droit. Amoureuse des mots, elle a écrit son premier recueil de contes à 10 ans et rêvait de devenir écrivaine. Aujourd'hui, elle est entre autres rédactrice web et s'implique dans l'association Handicapée et Fière, avec pour ambition de bâtir une société où l'égalité des chances et des droits sera la règle et non plus l'exception, et où tout le monde aura le droit de s'exprimer et d'être entendu. Nous lui donnons donc la parole aujourd'hui, tout de suite après cet intermède musical.
Allô ?
Michèle Sojip, bonjour.
Bonjour, Mireille.
Alors, vous êtes militante pour les droits des femmes et des jeunes filles, et en particulier en situation de handicap. Vous êtes vous-même dans un fauteuil roulant. Je vous joins là. Alors, vous êtes en voyage entre deux avions. Qu'est-ce qui vous donne l'énergie de vous battre d'abord?
Alors, la première chose qui me donne l'énergie, c'est l'amour, c'est le soutien que je reçois de ma famille, de mon entourage et même de personnes que je ne connais pas. La deuxième chose, c'est les situations que j'ai moi-même vécues, le rejet, la stigmatisation, la discrimination et même des violences. À un moment donné, on se dit, OK, j'ai vécu tout ça, qu'est-ce que je fais pour que d'autres personnes ne le vivent plus? Qu'est-ce que je fais pour apporter ma pierre à l'édifice? Qu'est-ce que je fais pour obtenir les changements souhaités? Voilà, c'est de là que je tire ma force.
Oui, quand vous dites des violences, vous voulez dire des violences, des pressions psychiques ou aussi physiques?
Principalement des violences psychologiques. Principalement des violences psychologiques. J'en ai vécu beaucoup. Pendant longtemps, j'ai été dans un environnement où tout pouvait m'être dit. Je n'étais pas forcément prise en considération. Quand on vous balance au visage que vous aurez dû mourir dans votre accident parce que vous êtes un fardeau.
Ok, l'horreur.
Un choc.
Bien sûr. Choc. Mais qui peut dire ça? Ce sont des gens étrangers qui vous voient, mais c'est invraisemblable.
Et bizarrement, ce n'étaient pas des étrangers, c'est des personnes auxquelles je portais une certaine affection. Et quand ça vient de personnes auxquelles vous êtes attachés, là, ça fait encore beaucoup plus mal. Ça fait beaucoup plus mal.
C'est terrible.
Comment... Mais après, on puise sa force de ces choses-là.
C'est fou, mais comment on peut même penser une chose pareille? Je veux dire, c'est clair qu'avoir la charge, par exemple, pour des parents d'un enfant avec un handicap, c'est difficile. Mais je pense que l'amour est tellement grand qu'on ne peut jamais reprocher à quelqu'un qui n'y peut rien, d'ailleurs, d'avoir un handicap, mais de dire à quelqu'un de mourir, c'est invraisemblable.
Oui, oui. Bon, après, je dis, heureusement, ce n'était pas une personne à laquelle j'étais attachée. Ce n'était pas ma maman, ce n'était pas mes frères,
oui.
Ce n'était pas mes filles. J'ai été mariée, en fait. Donc, c'est des propos qui venaient du côté de la belle famille.
Oh là là.
Et c'est assez violent, vraiment assez violent.
Bien sûr. Et c'est l'amour donc de vos proches, de vos parents, frères et sœurs, de votre famille qui a dû vous réconforter, vous donner le courage de continuer.
Oui, j'ai puisé énormément dans leur amour. Là, j'ai vraiment puisé dans leur amour, énormément.
À quels obstacles avez-vous été vous-même confronté déjà dans votre enfance et puis après, je ne sais pas si votre situation de handicap était déjà dès la naissance ou ensuite, est-ce que ce sont des obstacles qui sont liés vraiment principalement au handicap même ou au regard de la société ou de ce que la société en fait?
Bon, en fait, mon handicap, il n'est pas de naissance. J'ai fait un accident en 2013, j'avais 23 ans. C'est à la suite de cet accident là que je suis devenue tétraplégique. J'avais une paralysie pratiquement complète. Alors, c'est là que j'ai été confrontée au handicap et que j'ai été confrontée aux difficultés inhérentes au handicap. Notamment le regard de la société, la perception que la société a de la femme en situation de handicap. Mais ma plus grande difficulté, ça a été au niveau de l'insertion professionnelle.
Oui.
Parce que pour les entreprises, une personne en fauteuil roulant, ça restait compliqué. Parce qu'on se disait, OK, il y a des aménagements qui vont faire et qui peuvent être coûteux parce que l'État ne soutient pas forcément les entreprises dans ce sens-là. Donc, j'ai rencontré beaucoup de difficultés avant de parvenir à m'insérer professionnellement.
Oui, et vous avez réussi finalement quand même à vous faire accepter et à ce que les gens reconnaissent vos capacités intellectuelles, entre autres.
Oui, finalement, j'ai réussi. J'ai pu trouver un emploi d'une entreprise, une compagnie d'assurance, Phoenix Assurance. C'est là que je suis depuis bientôt 3 ans. Et disons, des aménagements ont été faits au niveau de l'entreprise pour que je puisse travailler. Ouais. Là, je suis en télétravail partiel. Les aménagements étaient faits au niveau du bureau pour que je puisse travailler.
Oui. Alors, vous-même, vous êtes impliquée dans une association qui s'appelle Handicapés et Fiers, qui a été créée en 2019, si je ne me trompe. Alors, quels sont les principaux objectifs de cette association? Comment favoriser l'inclusion, selon vous?
Alors, on se bat pour l'inclusion à tous les niveaux de la société. C'est vrai qu'on met un accent particulier sur l'éducation, sur les droits sexuels et reproductifs, sur la participation politique des femmes en situation de handicap et l'autonomisation des femmes. On mène beaucoup d'actions de sensibilisation parce que je pense que l'une des clés de l'inclusion, c'est la sensibilisation. La population a besoin d'être éduquée sur les questions de handicap. On met aussi beaucoup d'actions sur l'éducation des personnes en situation de handicap. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leurs droits et qui ont besoin d'être éduqués. Et qui ont besoin d'être éduqués même aussi sur le plaidoyer. Parce que je dis, si une seule personne se bat, on n'obtiendra pas des résultats. Mais si on est plusieurs à se battre, à se mettre ensemble, on peut plus facilement obtenir des résultats. On mène aussi beaucoup d'actions sur le digital. Moi, notamment, j'ai une page, Michel Soji parlant de tout. Où j'essaye de sensibiliser, de parler du handicap, d'éduquer, donc globalement, c'est un peu ça.
Oui, alors vous parliez de l'éducation, c'est évidemment primordial, surtout cette année, cette journée s'inscrit dans les objectifs des ODD, des objectifs au développement, et la scolarisation, bien sûr, l'éducation en fait partie. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que les enfants avec handicap aient une chance justement d'avoir une scolarisation à peu près normale et d'avoir du coup les mêmes chances après que les autres?
Alors, je pense que dans d'autres pays, on est un peu plus ouvert sur la question du handicap. Mais en Afrique et au Cameroun, la première chose déjà, ce serait que les familles puissent avoir honte du handicap. Parce qu'un enfant a un handicap, généralement, on le cache.
Oui.
Donc, la première chose, il faudrait que les familles puissent avoir peur du handicap. La deuxième chose, il faudrait que les établissements, les écoles soient plus inclusifs. Pas seulement au niveau de l'accessibilité, mais aussi au niveau de la formation du personnel enseignant. Au niveau de la formation du personnel enseignant, il y a ce côté handicap qui est parfois négligé. Il faudrait aussi que, au niveau des manuels scolaires, ça peut être long, ça peut être coûteux, mais on n'a pas de manuel scolaire en braille. Mmh. Imaginez un enfant qui est aveugle dès la naissance, comment est-ce qu'il fait si on n'a pas de manuel scolaire en braille? Comment est-ce qu'il fait au niveau des établissements si c'est un enfant qui est déficient auditif? S'il n'y a pas d'interprète en langage des signes, comment est-ce qu'il fait? Donc, c'est beaucoup de dispositions à prendre, mais je pense que s'il y a de la volonté, on peut y parvenir.
Et est-ce que aussi, enfin, vous voulez donner bien sûr une visibilité, et moins on va cacher évidemment les personnes avec handicap comme étant une honte, mieux on avancera bien entendu. Il y a aussi des actions, je ne sais pas si c'est seulement chez vous au Cameroun ou aussi ailleurs, mais de sensibilisation par exemple, comme des défilés de mode ou des marathons. Vous avez vous-même participé à ce genre d'événements?
Oui. Je pense que c'est important de participer à ces événements parce qu'on ne s'attend pas forcément à nous rencontrer à ce type d'événement.
Oui.
Des défilés, des marathons, des forums, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, c'est des endroits où on ne s'attend pas à nous rencontrer. Et moi, je me dis, on doit être là, on ne nous attend pas. Parce qu'il faut qu'on cesse d'être invisible. Si on est en plus d'émissions de télé, dans des films, dans des forums, dans des marathons, dans des défilés de mode, dans des publicités, sur des affiches publicitaires, ça contribue à dédramatiser le handicap.
Bien sûr. Et il faut dire aussi, dans ces défilés de mode, l'objectif, c'est aussi de montrer qu'on peut avoir un handicap et être belle quand même. Ce n'est pas évident, toujours comme femme, parce qu'une femme, un homme moins, mais une femme, on attend toujours qu'elle soit séduisante, belle, voilà. Et c'est d'autant plus difficile, j'imagine. Mais ça fait du bien à soi-même de pouvoir, par exemple, avoir le courage, c'est pas évident non plus, de défiler sur une scène et de montrer qu'on peut être belle aussi.
Oui, c'est un combat parce que lorsque vous êtes une femme, que vous avez un handicap, des gens ne vous considèrent pas comme une femme. Ça, il faut le dire, on ne vous considère pas comme une femme. Donc, de pouvoir monter sur un podium, j'ai assisté, j'ai participé à des défilés, de pouvoir monter sur un podium, de dire, OK, je suis une femme, je suis belle, je suis intelligente, j'ai une voix qui compte. Je suis une personne comme toutes les autres, pour qui c'est important. Et je pense que ça permet d'encourager aussi d'autres femmes en situation de handicap qui ne se sentent pas forcément femmes.
Oui. Et alors, pour cette journée du 3 décembre, est-ce qu'il y aura des manifestations, des événements particuliers qui seront organisés?
Oui, il y a des événements qui sont organisés. Le 3 décembre, déjà, il y a une marche sportive. C'est pas mon association qui l'a organisé, mais d'autres associations. Et il y a une marche sportive qui sera faite ce 3 décembre dans la ville de Douala.
Mmh. Est-ce qu'il y a aussi des sensibilisations peut-être à la télévision ou dans les écoles pour appeler justement à plus de tolérance et à regarder justement, vous parliez de regard de la société, c'est ce qui est le plus difficile, encore plus difficile même que le handicap en soi. Est-ce qu'il y a suffisamment justement de campagnes en ce sens selon vous?
De mon humble avis, il n'y a pas suffisamment de campagnes en ce sens, surtout dans les établissements scolaires. Parce que les élèves en situation de handicap, ils sont encore, j'ai envie de dire, un adolescent ne va pas le vivre forcément comme moi, qui a une certaine maturité. Mais il n'y a pas suffisamment de sensibilisation en milieu scolaire, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation dans les chaînes de télé, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation dans les radios. Il y a encore un gros travail qu'il faut faire là-dessus.
Et donc vous y contribuez, vous y travaillez aussi sur votre site web. C'est une sorte de blog ce que vous faites en quelque sorte, non?
Oui, c'est une sorte de blog que je fais notamment sur ma page parce que je dis, il n'y a pas réellement de sensibilisation. Donc je me bats à mon niveau pour le faire parce que comme je dis, il faut normaliser et dédramatiser le handicap. Il faut éduquer la société, il faut leur faire comprendre. Nous sommes des personnes comme des autres. Nous pouvons travailler, nous pouvons avoir une vie de couple, nous pouvons avoir des problèmes de santé. En fait, nous sommes des personnes comme des autres. Prenez-nous comme des personnes comme des autres. Entrez dans notre monde et laissez-nous entrer dans votre monde.
Oui, il faut inviter les gens à venir à votre rencontre pour dédramatiser et comprendre qu'une personne avec handicap est une personne comme tout le monde, en fait.
Tout le monde, oui, justement.
Parce que j'imagine qu'il y a parfois des préjugés et certaines peurs, appréhensions. Et c'est au moment de la rencontre qu'on se rend compte qu'une personne avec un handicap est néanmoins riche de tout ce qu'elle a vécu, de toutes ses expériences, comme n'importe quelle autre personne. Est-ce que d'ailleurs les droits sont inscrits dans la loi, dans la Constitution des personnes handicapées? Est-ce qu'il y a un article qui protège les personnes avec handicap?
On a une loi, la loi de 2010 qui porte protection et promotion des personnes en situation de handicap. Mais comme j'ai mal dit, la loi, telle qu'elle est écrite, elle est belle, elle est parfaite, elle prône l'inclusion à la limite. Vous voulez avoir un handicap pour profiter de tous les avantages que la loi prévoit. Mais dans la réalité, c'est tout autre chose.
Il faut encore se battre,
oui, dans la réalité pour avoir ces droits-là. Donc la loi, elle est là, mais au niveau de son application, il y a encore beaucoup à faire.
C'est-à-dire une personne, par exemple, qui postule pour un emploi et qui a la forte conviction d'avoir été rejetée simplement en raison de son handicap et pas de ses capacités professionnelles, est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir recours, par exemple, à la justice, ou est-ce que c'est inimaginable?
La loi prévoit qu'elle peut avoir recours à la justice, mais est-ce que ça va aboutir? Je ne sais pas. Moi, j'ai été dans cette situation où j'ai postulé à des emplois. J'avais pas précisé que j'ai un handicap. Et donc, quand il s'est appelé pour passer l'entretien, à ce moment, j'étais à Bafoussam, l'entreprise était à Douala. Et donc, on m'a programmé mon entretien le lendemain. Et c'était pas évident pour moi de voyager dans ce court laps de temps. Et donc, quand j'ai signalé là, j'ai expliqué, je suis porteuse de handicap, est-ce qu'on peut repousser mon entretien de 24 heures en plus? Là, ça a fait problème. Et je n'ai plus de retour. Et quand j'ai rappelé la compagnie, je pense 2 semaines après, la dame m'a expliqué, ils ont pris note, tu sais que j'avais un handicap moteur, ça aurait pu être compliqué, les aménagements et tout. Et il n'y a plus de suite. Alors, j'aurais peut-être dû porter plainte, mais est-ce que ça aurait abouti?
Oui.
Honnêtement, je ne pense pas, donc j'ai laissé tomber.
Ce sont évidemment des procédures qui coûtent aussi beaucoup d'énergie, de nerfs, d'argent bien sûr, donc on réfléchit à 2 fois pour avoir recours, j'imagine aussi. Très bien. Michel, je vous remercie infiniment.
Merci à vous.
En tout cas, je vous souhaite bon retour au pays et puis surtout, je vous souhaite bon courage dans votre lutte pour faire avancer les choses, pour la tolérance.
Merci.
Bon courage et bon succès à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir, Michel.
Merci, au revoir.
Bye.
Bye-bye.
C'était Michel Soujip, présidente fondatrice de l'association Handicapés et Fiers du Cameroun. Vous trouverez sur Facebook sa page en tapant Michel Soujip, parlons de tout.
Nul n'est parfait, à chaque endroit, un handicap. Nul n'est parfait, à chaque endroit, un handicap.
Personne n'a demandé à être handicapé, mais la situation de ces personnes est extrêmement précaire, constate Charles du Burkina Faso. Il y a encore beaucoup à faire, tous manquent même du minimum, ce qui les pousse à mendier, mais on ne peut pas compter sur les politiciens, pense-t-il. Kalenga de RDC, qui vit avec un handicap, note que même si le gouvernement ne fait rien, cela ne doit pas m'empêcher d'atteindre mes objectifs, qui sont d'aller encore plus loin, parce que mon handicap est physique et non mental, écrit-il. Mick de Kinshasa, lui-même en situation de handicap, est aussi bien décidé à se battre. Il est l'un des fondateurs de l'association congolaise Debout et Fier.
Moi-même, depuis mon enfance, j'ai été atteint par la polio. Bon, c'est jusqu'à maintenant, je suis handicapé, je porte les orthèses.
Et vous avez donc fondé cette association? Dans quel but alors?
Nous avons fondé l'association pour que les handicapés moteurs et qui marchent par terre puissent se mettre debout. Vu les soucis qu'on avait, il y avait plusieurs handicapés qui marchaient par terre. Ce n'était pas bien pour nous, vous voyez. Si vous êtes par terre là-bas, les gens ne vous considèrent pas dans la société. Si vous êtes debout, vous pouvez bien peut-être faire n'importe quoi, ce que tout le monde peut faire. Vous pouvez bien se tenir debout, marcher avec les cannes, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez faire d'autres activités que les autres personnes font. Vous voyez, c'était dans ces soucis-là que nous avons créé cette association. Nous avons notre propre atelier d'orthopédie. Nous fabriquons les orthèses et puis nous donnons ça gratuitement aux enfants, donc de 5 à 25 ans.
Parce que normalement, si vous n'avez pas votre association, l'État ne pouvait pas subvenir aux besoins des personnes avec un handicap, oui. Par exemple moteur.
Oui, l'État en tout cas ne nous aide vraiment pas. Nous avons beaucoup de difficultés pour faire fonctionner notre atelier là. C'est pour cela, à l'aide de quelques bailleurs, on arrive quand même à avoir quelques matériels locaux sur place au pays pour faire fonctionner l'atelier.
Mais alors, votre association, justement, elle s'appelle Association Congolaise Debout et Fière. Debout, du coup, ça a un double sens. Debout et Fière, c'est aussi debout dans la dignité, justement. Est-ce que vous avez l'impression que les personnes handicapées sont trop souvent mal considérées, mal vues, justement, dans la société, de ne pas être reconnues à sa juste valeur?
Oui, il y a plusieurs handicapés qui ont étudié, qui vont à l'école, qui sont intellectuels, vous voyez. Bon, oui, nous avons créé cette association pour que la société considère les handicapés. Parce que la plupart des gens croient que les handicapés ne font rien, ils peuvent faire rien à la société, mais nous, on a créé cette association-là pour que les handicapés puissent avoir la dignité. C'est surtout ça.
Vous pensez que, pour l'instant, par exemple, dans votre pays, les personnes avec un handicap ne sont pas encore suffisamment bien intégrées, que ce soit dans la vie sociale, économique ou politique, par exemple, malgré leur capacité, comme vous disiez?
Bon, oui, je peux dire que dans notre pays, la RDC, du point de vue économique, social, vie politique, les handicapés ne sont pas vraiment considérés. Vous voyez, il y a de ceux qui ont fait des études, même jusqu'au niveau supérieur. Mais pour être embauché ici, quand on vous voit, ah, c'est une personne avec handicap. On ne peut pas vous engager, madame. On va dire, non, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire ici dans la société? On ne te considère pas. Même quel que soit que tu as fait beaucoup d'études, tu es docteur, licencié, quoi. Ouais, c'est un peu ça, notre souci.
Mais alors, du coup, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et avoir justement leur dignité et leur place dans la société, oui. Vous pensez que les personnes avec handicap sont condamnées finalement à être à leur compte, d'ouvrir des petits commerces ou, pour pouvoir être indépendantes, autonomes?
Oui, bon, c'est pour cela, madame, nous, dans notre association, on organise des formations, des entrepreneuriats, peut-être pour permettre aux handicapés peut-être de faire des activités génératrices de revenus, vous voyez, pour qu'ils soient capables de gagner leur vie, qu'ils soient autonomes dans la vie. Avec ça, une personne handicapée peut gagner la vie, il peut y avoir une femme et puis bien s'équiper de ses enfants, la petite famille.
C'est ce qui lui donne une autonomie et une respectabilité. Et du coup, comme vous disiez, est-ce que du point de vue familial aussi, c'est facile, on arrive quand même à fonder une famille, avoir des enfants, ou est-ce qu'on est toujours regardé de travers ou un petit peu rejeté?
Oui, comme moi, je suis père de 4 enfants. J'ai ma femme et puis mes enfants.
Bon, félicitations.
Oui, quand même, avec les enfants, oui, les enfants vont à l'école.
Oui.
Et petit à petit, je sais que ils vont terminer les études. Ouais, bon, j'arrive quand même à supporter ma petite famille.
Et les enfants à l'école, ils ne subissent pas, par exemple, les moqueries de leurs petits camarades. Du fait que vous arriviez à les élever, à leur donner une bonne vie, ils sont aussi respectés.
Oui, ils sont respectés. Parce qu'ils voient que bon, leur papa s'occupe des... Ils sont respectés, en tout cas. Moi-même, j'ai commencé mes études primaires dans une école ici, malgré, bon, c'était un peu difficile, hein, étudier dans des écoles ordinaires, normales, avec les valides. Ouais, bon, les gens se manquer de vous, mais moi, comme j'avais ma volonté, mon objectif, c'était de terminer mes études, d'obtenir mon diplôme. Moi, j'ai fait de l'art plastique. Je suis céramiste de formation.
Oui.
Et puis, à l'université, j'ai fait la gestion des entreprises. Vous voyez que je gagne bien ma vie avec ce que j'ai pris à l'école. C'est une fierté pour moi, pour ma famille et puis pour la société, oui.
Bien sûr.
Pour mes amis.
Et quel serait votre message, alors, du coup, à l'occasion de la journée internationale du handicap?
Moi, je vais dire aux autorités de la cet appel de considérer les personnes handicapées parce que cette considération vraiment n'existe pas, de considérer cette catégorie de personnes qui étaient auparavant marginalisées.
Oui.
Parce que une personne handicapée est une personne comme toute autre. Donc, il a tous les atouts, toutes les capacités intellectuelles de faire de grandes choses dans la vie. Pour que nos problèmes soient vraiment résolus, il faudrait qu'une personne handicapée soit aussi représentée dans plusieurs institutions du pays.
Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et je vous souhaite surtout bon courage.
Merci, madame.
madame.
Beaucoup de succès.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Mick de Kinshasa, l'un des fondateurs de l'association congolaise Debout et Fier. Latif du Togo observe que dans un pays où la majorité de la population valide tire le diable par la queue, il est facile d'imaginer le sort des personnes handicapées. Alors, pour donner de la visibilité à l'action du gouvernement en leur faveur et changer le regard du reste de la population à leur endroit, il faut des gestes forts, comme la nomination de personnes avec un handicap au gouvernement, à la tête d'une institution ou à des postes de responsabilité, suggère-t-il, notant qu'après tout, nous sommes tous des handicapés potentiels. Cette journée mondiale est d'ailleurs l'occasion de rappeler que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Il reste donc encore en effet beaucoup à faire. Il est temps de se quitter pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos informations, magazines, concours et j'en passe sur notre site internet. Notre adresse dw.com/français-sans-cédille. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, X anciennement Twitter, YouTube et pour ceux qui sont en RDC, désormais même sur TikTok, en compagnie de la comédienne congolaise Jovita Sangwa. Vous tapez tiktok.com/@dw-afrique. Sur ce, bon week-end à tous et à tous et restez confiants.